Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Se sont déroulées du vendredi 15 au dimanche 18 juin les Journées nationales de l'archéologie. Journée nationale pilotée par l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, sous l'égide du ministère de la Culture. Je me suis rendu sur le site de l'amphithéâtre Théâtre, les Arènes de Senlis.
Jean-Marc Popineau, vice-président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis.
Est-ce que dans un premier temps, monsieur, vous pouvez peut-être un petit peu nous présenter l'INRAP.
Oui, donc l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, c'est actuellement le service national, le service de l'État, qui se charge de toutes les fouilles préventives en France. Les fouilles préventives sont les fouilles qui sont organisées lorsqu'il y a des grands travaux.
Et dans un second temps, est-ce que vous pourriez représenter votre société, s'il vous plaît ?
Oui, donc la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis est née en 1862 autour d'une poignée de passionnés qui voulaient valoriser l'histoire de Senlis et de sa région. C'est une époque où on commençait à s'intéresser à l'archéologie. Le chef de l'État, l'empereur Napoléon III, était lui-même un grand passionné d'archéologie. Donc différentes personnalités se sont regroupées avec pour objectif de rechercher les traces du passé de Senlis et de sa région et puis de communiquer, de publier leurs découvertes. Grâce à ces journées qui sont organisées par l'INRAP, tous les acteurs de l'archéologie, que ce soit des professionnels ou des amateurs comme nous, peuvent se retrouver autour d'un certain nombre de projets. Donc à Senlis, par exemple, il y a des visites de l'Office du tourisme, il y a le musée d'art et d'archéologie qui s'est ouvert. Mmh. Et puis donc notre site, les Arènes de Senlis, que l'on possède depuis 1865.
Et qu'avez-vous proposé au public qui est venu ce week-end ?
Donc, nous proposions un certain nombre de stands ayant pour thème l'archéologie. Donc, nous avions par exemple notre librairie d'ouvrages d'histoire et d'archéologie. Nous publions depuis 1862, donc nous commençons à avoir un bon choix à proposer aux gens. Il y a également des actions que l'on a menées pour valoriser nos arènes. On a fait planter des cognassiers. Un pâtissier de Senlis a retrouvé une recette antique, le cotignac de Senlis. Donc nous proposons cette petite confiserie succulente. Des apiculteurs ont également installé des ruches à Senlis, aux arènes. Donc on a un stand qui propose tous les produits dérivés du miel. Il y a des associations amies qui ont leur propre stand, par exemple la Mémoire senlisienne, qui s'intéresse davantage à l'histoire contemporaine de Senlis et aux souvenirs du XXe siècle. Une association d'étudiants de la Sorbonne qui parle d'histoire, alors eux ils sont plus orientés vers l'Antiquité, c'est l'association H comme Histoire. Nous avons également un stand d'initiation à comment revêtir une toge. Nous avons des visiteurs qui ont pu revêtir cette toge et on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et surtout on ne peut pas le faire tout seul, il faut forcément des serviteurs. Et puis, bien sûr, un stand de l'INRAP où les jeunes peuvent être initiés à comment remonter de la céramique qui a été trouvée enfouie.
On rappelle que les arènes de Senlis sont très peu ouvertes au public. Il y avait ce week-end et elles sont ouvertes également au mois de septembre, donc pendant les journées du patrimoine, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors malheureusement, on est une association avec beaucoup d'adhérents et peu de bénévoles, comme souvent. Donc on ouvre quand on peut. Donc effectivement, il y a deux grands moments dans l'année. Les journées de l'archéologie au troisième week-end de juin, les journées du patrimoine au troisième week-end de septembre. Après, l'Office du tourisme de Senlis prend le relais tous les premiers dimanches du mois ou sur réservation, on peut venir visiter les arènes accompagné d'un guide.
Donc vous-même, vous êtes intervenu de quelle façon durant ce week-end ? Vous avez fait aussi le conférencier, entre guillemets ?
Comme beaucoup de bénévoles, j'ai 50 casquettes différentes. Donc samedi matin, j'ai manié la débroussailleuse pour entretenir un petit peu les arènes. La végétation pousse très bien sous notre climat picard. Puis j'ai également guidé quelques visites pour présenter aux gens les différentes parties des arènes et comment ça fonctionnait à l'époque. Et puis bon, après il y a toute la manutention, le montage des tentes et le démontage. Alors c'est vrai que les journées de l'archéologie sont un petit peu moins relayées que les journées du patrimoine, donc on a beaucoup beaucoup plus de monde en septembre, mais malgré tout on est très satisfait.
Pourquoi les journées du patrimoine sont-elles plus médiatisées que celles de l'archéologie ?
Alors les journées du patrimoine sont beaucoup plus anciennes, hein, puisque c'est né dans les années 80 à l'initiative de Jacques Lang. Jacques Lang qui d'ailleurs s'était inspiré des rendez-vous de septembre qui étaient des journées où tous les sites et tous les monuments étaient ouverts gratuitement à Senlis. Donc ça remonte à beaucoup plus longtemps. Et puis, bon, le ministère de la Culture a peut-être aussi plus de marge de manœuvre financière que l'INRAP.
Je vous remercie.
Je vous en prie, avec plaisir.
Parmi les différents partenaires était présent l'association H comme histoire.
Guillaume Lefcoviez, le président. Alors c'est une association qui est toute jeune, qui s'est créée, qui a commencé son activité le 16 décembre 2016 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc on est une association universitaire qui réunit des étudiants, des chercheurs, des professeurs en histoire. Et notre objectif c'est d'expliquer l'histoire à tout le monde. Donc tant aux gens qui sont novices, tant aux gens qui cherchent, tant aux gens qui sont étudiants et qui ont besoin de réviser pour leurs examens. Ça n'est pas de faire vraiment de la vulgarisation au sens caricature, au sens vraiment simplifié à fond les faits historiques. Non, c'est plutôt de prendre les traités scientifiques d'histoire, de les expliquer, de les développer pour permettre à tout le monde de comprendre en fait. Et ce, à travers des articles, à travers des devinettes, des quiz, des vidéos, des conférences, etc. Ou même notre documentaire qu'on est en train de tourner sur Senlis et sur la Gaule romaine.
Pourquoi cette association ?
Pourquoi ? À la base, c'était pour faire des documentaires, parce que moi, j'ai toujours aimé la vidéo. On s'est dit qu'investir tant de temps, d'argent, d'hommes pour faire ça, et qu'au final, il n'y a personne pour les voir, ça allait être un petit peu dommage. Donc autour, on s'est dit qu'on allait créer une communauté, d'où la page Facebook de l'association, H comme histoire, sur laquelle voilà, on met des articles, des quiz, etc., pour fédérer les gens, et à terme, leur proposer les documentaires, qui puissent les apprécier gratuitement, voilà, et nous donner leur retour, poser leurs questions, etc.
Vous avez proposé quoi au public là, ce week-end ?
Alors ce week-end, bon, on a fait ça dans l'urgence. À la base, on ne devait rien organiser pour les journées de l'archéologie, mais je me suis dit au dernier moment que ce serait quand même dommage, donc on est venu aux arènes. Alors, on est revenu à Senlis après avoir tourné le documentaire, donc ça me semblait logique. Donc, là, ce qu'on leur propose, c'est les vidéos brutes, inédites, au drone qu'on a tournées dans le cadre du documentaire des arènes de Senlis, du temple d'Alat. Donc ça leur permet d'avoir un point de vue un petit peu plus haut et de pouvoir apprécier la beauté des lieux. Et après, ce qu'on leur propose, c'est des affiches thématiques sur les Jeux du Cirque, sur la Gaule romaine, sur la journée d'un Romain, les thermes, pour qu'ils se plongent un petit peu plus et qu'ils se représentent la vie à l'époque.
Et vous avez des projets ?
J'aimerais œuvrer un petit peu plus de reconnaissance de la part du public de tous ces sites historiques, comme par exemple le temple d'Alat, le site de Chanlieu, qui sont connus, mais qui sont, à mon avis, pas assez mis en valeur d'un point de vue historique. Pas assez d'informations, beaucoup de mauvaises herbes qui poussent, ça commence à s'accumuler parce qu'il n'y a pas de budget pour les restaurer, c'est normal. Et donc pour moi, que des associations, que c'est une forme de service public de second degré, vu qu'on n'est qu'une association, on n'est pas l'État, mais prennent le relais pour mettre en valeur ces lieux, ça me semble important.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs la page Facebook pour qu'ils puissent aller voir votre travail ?
Alors c'est tout simple, c'est H comme histoire, avec un logo violet, voilà. On est certifié, là, c'est très simple de nous trouver. Merci à vous.
Donc vous êtes archéologue ?
Archéologue, oui, à l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche Archéologie Préventive. Et ici, je suis venue aux arènes de Senlis présenter un peu cette archéologie et puis faire des ateliers avec les enfants pour leur expliquer ce qu'on fait avec le mobilier archéologique.
Plus précisément, vous avez travaillé avec de la céramique ?
Oui, donc on a apporté quelques vases en céramique. Bon, ce ne sont pas des collections archéologiques, malheureusement, mais c'est pour leur apprendre à faire du remontage de céramique. On a les fragments de tessons et puis on essaye de les remonter et puis on les recolle avec du scotch. Et après, on peut essayer de reconstituer la forme en les dessinant à l'aide d'un conformateur.
Conformateur, c'est...
Visuellement, c'est plein de petites palettes qui permettent de reconstituer le profil. On va le poser sur la forme du vase, on va pousser les petits brins et ça va prendre la forme du profil. Et après, une fois qu'on l'a, on le pose sur notre feuille millimétrée et on va également mesurer le diamètre du vase. Et enfin, comme ça, on pourra dessiner tout le vase et le comparer à notre collection de référence.
Donc c'est vraiment une initiation à l'archéologie et c'est les techniques que vous utilisez vous-même.
Oui, c'est les techniques en fait, qui se font une fois qu'on est sorti du terrain. Il faut qu'on étudie tous les objets que l'on a trouvés en fouille. Donc là, on a montré que la céramique, mais on peut aussi faire la même chose, le puzzle avec les ossements des animaux ou les ossements humains, les objets en métal. Donc à chaque fois, il faut nettoyer les objets, les reconstituer, les recoller, les dessiner, les photographier. Donc c'est un travail de fourmi qui est aussi long finalement que le travail de fouille lui-même.
Et l'interaction avec le public, elle était intéressante ce week-end ?
Oui, il y a toujours plein de questions, tant des enfants que des adultes. Tout le monde a envie de découvrir déjà comment se fait le travail et puis quelle information ça amène par rapport à l'histoire. Et c'est complémentaire des arènes puisque ici on est dans un lieu assez fantastique qui a été malheureusement fouillé au 19e siècle. Grâce aux archéologues du 19e, on les a.
Vous avez aussi un petit peu de documentation, je suppose, des frises chronologiques.
À l'INRAP, on a la chance d'avoir un service de communication qui a plein de petites plaquettes qui permet d'expliquer tout le travail tant de l'archéologue que des spécialités. Donc la spécialité qui viennent justement étudier les mobiliers, l'anthropologie, l'archéozoologie qui travaille sur les ossements des animaux, la carpologie qui travaille sur les graines, et puis des plaquettes plus destinées aux enfants qui expliquent l'archéologie, avec un petit personnage très rigolo qui est Tip Taupe, la taupe archéologue. Merci.
On écoute Gilles Baudin, le président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis, qui nous explique l'historique du site.
Donc ils vont mettre 30 ans à dégager le monument, et ils le dégagent comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on cherche un monument qui représente l'histoire de la France. C'est le Second Empire. Le Second Empire, il y a Napoléon III qui cherche Gergovie, Alésia, les traces de Vercingétorix, qui cherche les camps de César, qui fait des fouilles à Champlieu en forêt de Compiègne. Et donc on a trouvé aussi un certain nombre d'objets, alors des boucles, des monnaies qui permettent de dater le bâtiment, et on sait qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, il est créé. Donc exactement en même temps que la ville est créée. Donc dès le début de l'existence de la ville, d'Augusto Magus, le Senlis antique, on fait un grand édifice de spectacle. Édifice de spectacle, donc il y a l'arène, l'ellipse, qui est grosso modo 4 fois plus petit que le Colisée. Et puis il y avait 3 rangées de gradins. La première rangée de gradins, la plus basse, où vous avez entre autres le podium ici au sud, qui permet aux notables de pouvoir assister au spectacle en ayant le soleil dans le dos. Une deuxième rangée de gradins qui existe toujours et qu'on distingue bien juste au-dessus, qui arrive jusqu'au sommet de ce qui existe encore du bâtiment actuel. Et puis une troisième rangée de gradins, le bâtiment pouvait contenir entre 8 et 10 000 personnes. Ce qui représente, d'après les estimations qu'on peut faire, toute la population du Senlis antique et puis de tout ce qu'il y avait autour du Senlis, ce qu'on appelle le pagus, c'est-à-dire l'espèce d'arrondissement antique, ce qui a donné le diocèse de Senlis. Et diocèse de Senlis jusqu'à la Révolution, c'est de Chantilly jusqu'au-delà de Crépy-en-Valois. Que dire d'autre ? Les gens arrivaient par ce qu'on appelle, vous êtes arrivés, on appelle ça un vomitoire. C'est cette grande entrée que de temps en temps on dit l'entrée des vivants. Les personnes les plus importantes descendaient jusqu'en bas pour se répartir sur la première rangée de gradins. Parce que vous avez des petits escaliers de part et d'autre, à droite et à gauche. Au passage des escaliers, ils menaient sur les gradins, mais ils passent au-dessus de 2 petites salles, une à droite, une à gauche. Il y en a 2 autres sur l'ouest, là. On appelle ça des carceres. C'est-à-dire des cellules dans lesquelles soit les animaux, soit les gladiateurs pouvaient être stockés avant qu'on ouvre les portes. Il y avait des grilles qui donnent directement sur l'arène.
Vous pourriez parler un petit peu des combats d'animaux sanglants apparemment qui auraient eu lieu à l'époque.
Alors, on a, hélas, mais bien évidemment, aucun document d'archives qui va nous raconter les spectacles qui pouvaient avoir lieu dans les arènes de Senlis. Alors, qu'est-ce qui s'y passait ? Il se passait des chasses, c'est-à-dire on chasse des animaux sauvages ou on fait se rencontrer des animaux sauvages entre eux. Les Romains aimaient beaucoup ça. Donc ils ont d'ailleurs participé à l'extinction des aurochs, qui sont des énormes bœufs, buffles sauvages, donc qu'on affrontait ou qu'on faisait affronter avec d'autres animaux. Les ours aussi. Est-ce qu'on a fait venir à Senlis des animaux plus exotiques ? Ça coûtait très cher. Alors les spectacles, ils étaient organisés par l'administration romaine. Ils étaient aussi organisés de temps en temps avec des sous de riches romains, de riches personnes qui voulaient prendre un petit peu d'importance dans la cité et qui payaient ces spectacles. Est-ce qu'il y a eu des combats de gladiateurs ? Rien ne prouve qu'il n'y en ait pas eu. Il y a les aménagements pour faire des combats de gladiateurs. Donc à mon sens, il y a dû y en avoir, comme partout dans le monde romain. Mais ça coûtait cher et c'était plutôt le clou du spectacle.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc sur le site de l'amphithéâtre-théâtre Les Arènes de Senlis. Arène ouverte au public dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.